Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+, ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, je produis et j'anime l'émission que vous écoutez qui se nomme Votre santé, un trésor. Je vous propose aujourd'hui de vous entretenir de l'histoire que nous pouvons dire contemporaine de l'hôpital Ruffy de Nîmes à travers les mémoires du docteur Jean Lauré. En activité de 1313 à 1934, les bâtiments hospitaliers ont été rebâtis après les guerres de religion. La chapelle, par exemple, en 1660, le cloître en 1663. Le portail monumental conçu par Dardallon en 1740. Le cœur de la chapelle comprend un plafond à l'italienne avec voussures et décors peints de faux marbre. Le maître-autel, son retable de marbre et la table de communion sont dus à Mazzetti en 1783. Le grand quadrilatère dénommé Hôpital Ruffy est édifié d'après les plans de Charles Durand en 1830. Cet ensemble monumental a été modifié en 1937 par la destruction du portail de Charles Durand et en 1978 par celle du cloître. Le début du siècle est marqué par un événement important, la séparation de l'Église et de l'État. Les sœurs de Saint-Joseph quittent l'hôpital à ce moment-là qui devient, comme au début de son histoire, l'hôpital Ruffy. Il reprend le nom de Ruffy, la personne qui avait conçu le premier hôpital à Nîmes, reprenant ainsi le patronyme du fondateur de ce milieu hospitalier de Nîmes. Le contrat passé en 1663 doit être respecté. La commission administrative fait le partage des biens. Les sœurs de Saint-Joseph conservent le couvent et l'église. Elles abandonnent à l'hôpital les locaux d'hospitalisation et tous les bâtiments qu'elles avaient fait construire sur le boulevard des Arènes et le chemin de Montpellier. Leur lieu d'habitation était assez vaste pour permettre l'installation d'une clinique chirurgicale par la suite qui satisfait leur vocation première. Ce fut la clinique Saint-Joseph, bien connue des anciens Nîmois. Pour rappel, la clinique Saint-Joseph, qui est une clinique chirurgicale, s'est fusionnée avec la clinique Pasteur pour créer la clinique Grand Sud, qui existe toujours actuellement. Déjà en 1897, le conseil municipal avait admis le principe de la construction de nouvel hôpital. Et dès l'année suivante, la ville de Nîmes achetait dans ce but un vaste terrain en bordure du chemin de Saint-Césaire. Mais c'est seulement en 1911 que les travaux de terrassement et d'aménagement du sous-sol furent entrepris. La guerre de 1914 vint les interrompre. La guerre de 14-18 procura à l'hôpital Ruffy et à bien d'autres centres d'hébergement une particulière activité. La paix revenue avec l'élection à la vice-présidence de la commission administrative du docteur Dubois et avec l'aide efficace du maire Hubert Rouget, un nouveau projet d'hôpital va voir le jour et se réaliser en 10 ans, de 1924 à 1934. La question fut reprise en 1923 et on décida alors de construire le nouvel hôpital sur l'emplacement qui s'étendait à proximité de l'hospice d'humanité. L'hospice d'humanité de Nîmes était situé au début d'un hôpital général qui se dressait à proximité de la porte Saint-Antoine. Il accueillait les malades, les vieillards, les pauvres, les insensés, comme on disait à l'époque. En 1870, l'hospice d'humanité est transféré de l'hôpital général, situé sur le boulevard Victor Hugo à Nîmes, l'actuel lycée Alphonse Daudet, dans de nouveaux locaux, route d'Uzès, sur des terrains propriété de la ville. Les travaux sont confiés par la municipalité à Eugène Laval, architecte diocésain de Nîmes et du département. Ils sont achevés par Alphonse Granon, architecte de la ville. Le plan formé de 4 bâtiments en serrant 2 cours et influencé par les grands hôpitaux parisiens comme Saint-Louis et la Salpêtrière, mais aussi par celui de l'hôpital général de Montpellier. C'est lui que j'ai connu comme étudiant, interne et praticien, donnant sur la route d'Uzès où la chapelle constituait la partie la plus remarquable de cet ensemble architectural. Couronnée d'un fronton, elle s'inspire de l'architecture renaissance italienne et du grand Palladio. Elle avait été transformée en salle de cours de part et d'autre du corps central, deux statues représentant la charité et la bienfaisance. De nos jours, ces deux statues sont installées dans le parc du centre gériatrique Serre-Cavalier. Récemment, un nouveau dôme a été mis en place, rappelant l'ancien, un dôme sur plan carré coiffé d'un épicule abritant une cloche qui court la chapelle actuelle. Le projet, cette fois, devait être mené à bon terme. Le 12 octobre 1924, Gaston Doumergue, président de la République, posait solennellement la première pierre du centre médical. 10 ans plus tard était achevé le groupe de bâtiments qui succédait avantageusement à la construction vétuste qui s'élevait sur les lieux où, en 1313, Raymond Ruffy avait fondé le premier hôpital-Dieu. Le 17 décembre 1934, le transfert des malades a lieu. Le vieil hôpital Ruffy se vide au profit de l'hôpital Gaston Doumergue, édifié sur les terrains contigus à l'hospice d'humanité, route d'Uzès. Les bâtiments sont vendus à la chambre de commerce. Les bâtiments de l'hôpital Ruffy occupaient l'emplacement de l'ancienne chambre de commerce, devenue à présent le grand hôtel Dieu et de la maison de la jeunesse, foyer Maurice Albaric. La façade sud, bordant la rue de la République, comportait un mur, s'ouvrant en son milieu par une porte cochère, jalousement gardée, surmontée d'un fronton grec abritant une cloche annonçant l'arrivée des médecins-chefs. Une élégante grille a remplacé ce mur et permettait d'avoir une vue de l'édifice qui était alors caché. La face ouest, donnée sur la place Montcalm, était enlaidie par un édifice accolé à lui, aujourd'hui enlevé. Elle se prolongeait, après la porte de France, sur la petite place par un autre mur, également démoli, avec une seconde porte qui demeurait et qui donnait accès à la maison de la jeunesse. Au nord et à l'est, les bâtiments étaient contigus à ceux de la communauté des Sœurs de Saint-Joseph. De l'autre côté de la place de la Porte de France, on pénétrait dans l'enclos limité par les rues du Mail et l'Hôtel Dieu, pour se rendre au pavillon Ducré ou dans les bureaux d'administration et le centre anticancéreux. On entrait dans l'hôpital par la porte principale de la rue de la République, qui donnait accès à une cour, encore bien évidemment visible, bordée par deux bâtiments latéraux, rejoignant au fond un bâtiment central. Le rez-de-chaussée était occupé par les services du laboratoire, de la radiologie, de la pharmacie et par certains bureaux. Les deux étages supérieurs abritaient les services de chirurgie et de spécialité. Au-delà du bâtiment du fond, se trouvait une autre cour qui le séparait de ceux qu'occupait alors la maison de la jeunesse et qui était devenu le parking de la chambre de commerce. Bien caché derrière un haut mur, cette cour servait de dépotoir. L'édifice qui abritait le foyer Albaric avait, à l'époque, été restauré, mais non modifié. On trouvait au rez-de-chaussée la cuisine et les entrepôts, aux étages, les deux salles de médecins et de l'internat. Je vous propose une trêve musicale avec une chanson des années 30 et je vous laisse bien en profiter. Thank you.
girl to save it all. One love for her alone. One word, one vow, and nothing more to tell her I'm her own. One magic night within her arms, with passion flower unfurled. But I will try to love only one girl and no other girl in the world.
Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. Nous évoquons aujourd'hui l'hôpital Ruffy du docteur Jean Laurie. Le personnel médical était constitué par les docteurs Reynaud et Revel, qui étaient les chirurgiens, et les docteurs Coste et Flessier, les médecins. Maurice Reynaud était à la fin de sa carrière. Ancien interne des hôpitaux de Lyon, il avait été le premier médecin admis par concours en 1909. Jusqu'alors, les médecins des hôpitaux étaient désignés au choix par la commission administrative en fonction de leur notoriété. Professeur d'anatomie à l'école des beaux-arts de la ville, il en tirait justement satisfaction. Joseph Revel était son contraire. Corpulent, il avait le teint fleuri du bon vivant. Brillant chirurgien militaire, il avait démissionné pour s'installer à Nîmes, y élever une nombreuse famille et pratiquer une chirurgie qu'il qualifiait de nouvelle. Il aimait la compagnie des jeunes et les matinées opératoires se terminaient souvent au bar américain. C'était un patron compétent, familier et généreux, nous raconte Jean Lauré. Louis Coste était un homme du XVIIIe siècle. Il en avait l'allure et l'esprit. Sa courtoisie, sa distinction, son langage châtié le rendaient quelque peu distant, malgré son penchant pour les mauvais calembours. Il était connu à Nîmes comme médecin, mais aussi à cause de sa voiture qui datait du début du siècle et étincelait de tous ses cuivres. André Flessier était maigre comme un chat noir de poils et d'habits. Il se couvrait le chef de chapeau que l'on appelait frivole, qui prenait sur sa tête les formes les plus inattendues. Les yeux seuls souriaient, mais combien il pétillait lorsqu'il était l'état de son malade s'améliorait. Il utilisait un stéthoscope en bois qu'il promenait à la main. Il continuait la visite sans observer l'ordre des lits. La salle commune avait 30 ou 40 lits à l'époque. Ses élèves l'admiraient tous. Il avait été élève de Galavardin, dont l'oreille valait bien un électrocardiogramme. Louis Bénédicte Galavardin est né le 20 août 1875 à Lyon et mort le 2 décembre 1957 à Lyon. Il était un médecin cardiologue français connu pour le phénomène de Galavardin. Il a étudié la médecine à la faculté de médecine de Lyon. Il devient interne en 1895 et médecin des hôpitaux de Lyon en 1902. Les internes qui pouvaient se libérer suivaient toute sa visite. Ces descriptions de Jean Lauré nous font vivre des médecins comme nous n'en rencontrons plus. La pharmacie était dirigée par M. Cabanis, qui est et avait une officine au bas du boulevard Victor Hugo, qui existe toujours visible, près de l'amphithéâtre, et qui de ce fait était aussi la pharmacie des arènes. Et rien n'était bien différent de ce que nous décrit Jean Lauré de l'hôpital Dieu de 1832, si ce n'est l'adjonction récente des services de spécialité comme l'ophtalmologie à la charge Maxime Bougnol, l'otorhinolaryngologie de Marcel Coulombe, la pédiatrie de Jean Lafont, la dermatologie, vénérologie de Jules Bernard Magnan et surtout un laboratoire d'analyse biologique et un service de radiologie. Noël Soulier dirigeait l'un, Louis Pichera l'autre, tous deux étant des pionniers dans leur discipline. À l'hôpital Ruffy étaient rattachés des services établis en d'autres lieux. La physiologie, c'est-à-dire la spécialité qui s'intéresse aux poumons, orientée essentiellement sur la tuberculose à l'époque, était installée rue de Bouillargues, dans l'ancien hôpital complémentaire 35, qui avait été installé dans l'ancien couvent des Dames de l'Assomption à partir du printemps 1915 et accueillait les soldats infectés par la tuberculose, abandonnés par les militaires. Ce bâtiment est abandonné par les militaires après la guerre de 14-18. J'y étais interne et praticien. Il se nommait l'hôpital Villemain et rendait ainsi hommage au physiologue Jean-Antoine Villemain, 1827-1892. Un service pour les hommes, un pour les femmes, était à charge des docteurs Jean Tessier et Pierre Villaret. L'hôpital général, qui en 1872 était devenu l'hospice d'humanité, en quittant l'emplacement du lycée Daudet actuel, pour le chemin d'Uzès, accueillait les vieillards, les incurables et ce qu'on appelait à l'époque les aliénés, dont s'occupait le docteur Max Vincent. La maternité, elle, était voisine et dirigée par le docteur Dufoy et Gaujou et avait pour directrice Mademoiselle Ventre, maîtresse sage-femme. Les chirurgiens Aimé Delors et Paul K. Bois étaient les adjoints de chirurgie, les médecins Louis Chambon et Fernand Barbus, ceux de médecine. Sept internes complétaient le personnel médical. Louis Chambon était le père de Joseph Chambon, qui était gastro-entérologue et chef de service au CHU Gaston Doumerne. Il a été un de mes patrons. L'administration de l'hôpital était gérée par une commission de sept membres, dont le maire de Nîmes, qui en assurait la présidence. Le personnel d'administration comprenait une vingtaine de commis sous la direction de secrétaire général directeur Eugène Cosse. Les finances avaient à leur tête Louis Biot, conseiller général. Casimir Rouquet était économe. Le personnel soignant était composé de 80 infirmières, assistantes, surveillantes et majors. 4 ou 5 hommes auxquels on donnait le nom de préparateurs servaient au bloc opératoire, en radiologie et en vénérologie. L'hôpital Ruffy, que nous venons de décrire pendant les dernières années de son existence, était encore une maison de charité, dont la clientèle était essentiellement constituée par des gens pauvres, dont la gestion était en partie encore basée sur la générosité de donateurs. Le nom des salles de l'hôpital portait le nom d'un bienfaiteur. C'est ainsi que la salle de médecine militaire s'appelait Feuchère depuis 1841. Le prix de journée d'hospitalisation était acquitté par le malade lui-même, s'il était ce que l'on appelait un payant, et ils étaient peu nombreux, ou par les organismes qui, depuis le début du siècle, prenaient en charge ses adhérents, comme la Société de Secours Mutuel, la Caisse de Sécurité Sociale de l'Industrie et des Accidents de Travail, le Bureau de Bienfaisance pour les Indigents figurant sur la liste communale. Bien sûr, il faudra attendre l'ordonnance du 4 octobre 1945 pour que la Sécurité sociale rembourse directement l'hôpital et que soit rayé le mot « indigent » du vocabulaire officiel. L'hôpital Ruffy fut à Nîmes la dernière maison de charité et le premier centre de soins. Le 12 octobre 1924, Gaston Doumergue pose la première pierre d'un nouvel hôpital qui va porter son nom. Le transfert des malades a lieu en 1934. 10 ans plus tard, lors de la Seconde Guerre mondiale, le pavillon A de l'hôpital Gaston Doumergue, occupé par les Allemands, est détruit le 27 mai 1944, comme plusieurs édifices de la ville, sous les bombes de l'aviation américaine. 55 personnes, malades, personnels, soignants et médecins sont tués. Les développements successifs de la ville ont orienté les projets immobiliers hospitaliers, de l'Hôtel-Dieu à Carrémont, ouest, l'hôpital Ouest, où se trouve actuellement l'ensemble des bâtiments du CHU. Et voilà racontée l'histoire des hôpitaux de Nîmes, de l'hôpital Ruffy de 1313 jusqu'à grand CHU actuel, majoritairement placé sur la colline, que vous connaissez actuellement et qui n'a rien à voir, bien évidemment, avec le petit hôpital du XIVe siècle. J'ai l'habitude de finir mes émissions par une note de biographie. Aujourd'hui, bien évidemment, je vous conseille une nouvelle fois le livre que vous pouvez trouver à la bibliothèque du Carré d'Art, l'hôpital Ruffy de Nîmes, 1313-1934, du docteur Jean Lauré, écrivain. Je remercie bien évidemment Louis à la technique et Chanel au visuel. Je vous rappelle qu'il est important pour nous que vous nous aidiez en prenant votre adhésion à Radio Alliance Plus. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention, de l'écoute de votre Santé un trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt, je reste votre bien dévoué.
Swiftly passing years lie all our hopes and dreams and fears. Where have they gone? The words that rang so true when love in our hearts was new. Where in the shadows that we have to pass among lie the songs that once we sung. Once in a lifetime, when we are very, very young and love.
coffee, you're the salt in my stew. You will always be my necessity, I'd be lost without you. You're the starch in my collar, you're the lace in my shoe. You will always be my necessity, I'd be lost without you. Most men tell love tales, and each phrase dovetails. You've heard each no way, this way is my own way. You're the sail of my love boat, you're the captain and crew. You will always be my necessity, I'd be lost without you.